Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous du samedi avec bien sûr 7 jours d'actualité que nous revivons grâce au reportage de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Vous pouvez aussi écouter cette émission sur l'application RFI Pure Radio et notre site www.rfi.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre confrère Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternative Économique. Bonjour Yann.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Et les auditeurs, figurez-vous, vous attendent. Vous avez une sorte de fan club.
Je suis très flatté.
Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je dis une sorte de. Vous avez un fan club tout simplement. Écoutons Mokhtar. Une semaine d'actualité avec Yann Mince, c'est Noël avant l'heure. Ou un arc-en-ciel dans le firmament, sa venue sonne comme une éclaircie dans un ciel gris. Mokhtar qui habite à Richard Tolls, au
ça
nord
fait
du Sénégal.
Micro, mais je rougis de confusion et de bonheur.
On vous attend.
Oui, je vois.
On attend
beaucoup à Mokhtar.
Vos commentaires.
J'essaierai d'être à la hauteur de ces commentaires élogieux.
Vous le serez, il n'y a aucun problème. D'autant que vous avez des choses à nous dire, vous êtes de retour de Libye.
Oui, j'étais en Libye, non pas comme journaliste Alternative Économique, mais comme membre du conseil d'administration de Médecins Sans Frontières, auquel j'ai l'honneur et le privilège de participer. Donc j'ai pu visiter un certain nombre de projets d'action de Médecins Sans Frontières en Libye, et notamment, principalement auprès des migrants qui sont dans ce pays, certains étant détenus dans des centres, puisque vous savez que les gardes-côtes libyens essaient d'empêcher des bateaux de prendre le large, et donc les migrants qui sont sur ces bateaux sont ramenés à terre, enfermés dans des centres. Certains ensuite pourront peut-être espérer, s'ils sont éligibles au statut de réfugiés, peut-être être réinstallés en Europe. Pour l'instant, ils sont mis plutôt au Niger, certains d'entre eux, en tout cas, en attendant de voir si les pays européens sont favorables ou pas à leur accueil. Et puis d'autres qui ne sont pas éligibles au statut, ils sont rapatriés dans leur pays d'origine, souvent des pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale.
Alors nous allons évidemment reparler de cette situation que vous avez vue de visu, si j'ose dire. Et on va commencer tout de suite notre voyage et partir pour l'Angleterre, figurez-vous, avec une histoire digne de la guerre froide. Un ex-agent double russe ainsi que sa fille retrouvé sur un banc public inconscient et empoisonné dimanche dernier. Muriel Delcroix.
Tout a commencé dimanche après-midi quand la police a signalé un incident majeur à Salisbury dans le sud du pays et mis en quarantaine plusieurs endroits de la ville ainsi que le service des urgences d'un de ses hôpitaux. Les policiers avaient été alertés par des passants ayant découvert un homme et une jeune femme inconscients sur un banc aux abords d'un centre commercial. Les médias affirment depuis que l'homme hospitalisé dans un état critique après avoir été exposé à une substance pour le moment non identifiée s'appelle Sergueï Skripal. Il s'agit d'un ancien colonel appartenant au service secret russe, âgé de 66 ans. Il avait été accusé par Moscou d'avoir livré les noms d'agents russes travaillant en Europe au MI6, les renseignements britanniques. Jugé pour haute trahison et emprisonné en Russie en 2006, il avait été gracié 4 ans plus tard et avait trouvé refuge en Grande-Bretagne après un échange avec d'autres prisonniers américains et russes. Les circonstances rappellent beaucoup la mort de l'ancien espion Alexandre Litvinenko, empoisonné en 2006 par 2 agents russes à Londres, et les spéculations vont désormais bon train sur une possible tentative d'assassinat similaire. La police, pour sa part, souligne que les services de contre-terrorisme ne sont pas à ce stade impliqués et qu'il est encore trop tôt pour parler d'empoisonnement criminel.
Alors j'ajoute qu'un policier britannique a été gravement blessé aussi. Ce qui a frappé Yann dans cette histoire, c'est la fermeté, la réaction très ferme du gouvernement britannique.
Oui, Boris Johnson, notamment le ministre des Affaires étrangères, a menacé la Russie de représailles si elle était concernée, notamment, je crois, en ce qui concerne la présence de la Grande-Bretagne à certaines manifestations sportives bientôt.
Dans la Coupe du Monde.
En Russie, voilà, la Coupe du Monde. Et il faut bien dire que c'est la deuxième fois qu'un agent ou un ex-agent russe trouve la mort bizarrement sur le sol du Royaume-Uni, ce qui est clairement une atteinte à la souveraineté britannique, si ce sont, comme ça semble quand même probable, les services de sécurité russe. Moi, je constate, peut-être simplement hasard, que ça se passe très peu de temps avant l'élection, la réélection quasi assurée de Vladimir Poutine à la tête de l'État russe. Je note aussi que c'était pas Poutine qui avait gracié cet agent, c'était Medvedev. Alors est-ce que c'est la vengeance de Poutine, la façon de montrer que lui ne pardonnait pas et qu'il ne pardonne pas à ceux qui ont trahi? Je ne sais pas.
Et quel intérêt Vladimir Poutine aurait eu à faire ce geste?
Dans la logique de Poutine, ça pourrait être un avertissement à d'autres agents qui seraient tentés de pactiser avec l'Occident et qui sauraient que même s'ils sont échangés ensuite, puisque cet agent qui a été assassiné avait été échangé officiellement par le Royaume-Uni pour des agents qui étaient clandestins aux États-Unis, je crois. C'est pour dire peut-être à ceux qui seraient tentés dans les services russes de trahir que même s'ils sont échangés, ils ne seront pas en sécurité.
Alors on dit que 007 est sur les rangs, et sur le coup.
Ça serait pas surprenant, effectivement.
À direction l'Italie, maintenant un pays que vous connaissez bien, que vous aimez, je sais, Yann Mince, après les élections législatives de dimanche, un séisme, a-t-on beaucoup dit. Les populistes du mouvement 5 étoiles, tout comme la Ligue d'extrême droite, auteur de percées historiques, ont revendiqué le droit de gouverner. Alors voici ce que disait la presse italienne lundi matin à Rome, Juliette Garbrand.
Comme le résume en une Il Fatto Quotidiano, ça change tout. Et de fait, le résultat du scrutin bouleverse la politique italienne. Il Secolo estime que les 5 étoiles ont fait sauter la banque avec un score que même ses leaders n'osaient pas espérer, 32% des voix alors qu'il était crédité de 28% dans les sondages. La Repubblica souligne que l'Italie des 5 étoiles a fait couler le Parti démocrate. Luigi Di Maio a en effet récupéré les voix de nombreux déçus du gouvernement de Paolo Gentiloni, même si le score décevant du parti au pouvoir est aussi dû à l'éclatement de la gauche. Le risque d'instabilité inquiète aussi la presse ce matin. Pour la Stampa, l'Italie est ingouvernable et les ennuis sont en vue, estime Il Giornale. Comment former un gouvernement, c'est en effet la grande interrogation à présent. Et la Notizia annonce l'ouverture de la chasse aux députés qui seront prêts à retourner leur veste pour éviter un retour aux urnes. Le mouvement 5 étoiles, premier parti du pays, compte bien diriger les opérations. Pour gouverner avec qui, l'équation sera difficile à trouver. Sur les questions de société et d'environnement, le mouvement à des positions plutôt proches de la gauche. Sur l'immigration, il a en revanche des positions plutôt proches de l'extrême droite de Matteo Salvini.
Alors ça, c'est un véritable séisme. Je reprends le terme, Yann Mince. Il faut noter aussi la démission de Matteo Renzi du Parti démocrate italien. Décidément, l'Europe prend une couleur teinté d'extrême droite de plus en plus.
D'extrême droite, pas dans le cas de 5 étoiles. Le 5 étoiles, c'est un mouvement à l'idéologie un peu étrange, un peu confus. C'est surtout ce qu'il y a de commun entre, je crois, l'extrême droite, du coup, de la Ligue et le mouvement 5 étoiles. C'est un rejet de la classe politique, un rejet des élites. Bon, un rejet, ça ne fait pas une politique. Et 5 étoiles, qui est arrivé en tête, doit maintenant dire ce qu'il veut faire et avec qui il est prêt à le faire. C'est très facile quand on est en l'opposition de rejeter ce qui se fait quand au pouvoir, de rejeter ce qui s'est fait. Et Dieu sait qu'il y a des choses à rejeter dans la politique italienne depuis très longtemps. C'est moins facile d'être dans le siège du conducteur, comme disent les anglo-saxons, et de savoir avec ce qu'on va faire et avec qui. Parce que les 5 étoiles, certes, ont fait un beau succès, mais pas suffisamment pour gouverner seul. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'allient s'ils veulent gouverner. Le Parti démocrate de Renzi, en tout cas Renzi lui-même, a dit que son parti ne pactiserait pas. Et d'ailleurs, je note que sa démission ne sera effective du parti, la direction du parti, qu'après la formation de gouvernement. Il veut rester là pour empêcher son parti. Moi, l'hypothèse qui me semble la plus probable, mais je ne suis pas devin, ce serait qu'il y ait une scission du Parti démocrate et que Renzi ou pas, une partie des députés de ce parti, disent on va faire alliance avec 5 étoiles pour assurer, comme on dit, la gouvernabilité de l'Italie.
Parce que les choses vont vite en politique et notamment en Italie. Matteo Renzi, qui était salué il y a encore quelques temps comme le réformateur, le nouveau visage de l'Italie.
Son étoile a quand même pâli assez vite. Il n'était plus vraiment l'homme qui était au centre. Il a essayé de revenir un peu au centre, mais c'est plus vraiment lui qui était au centre de la politique même du italienne, même du Parti démocrate. Ce qu'il essaye de faire là, c'est, et je trouve que c'est un peu triste, c'est d'essayer d'empêcher quelque chose alors que les électeurs ont clairement désavoué la ligne qui était la sienne. Donc, effectivement, le risque, ce serait qu'il y ait une alliance entre 5 étoiles, l'extrême droite et peut-être Forza Italia, le parti de Berlusconi qui lui aussi a pris une claque. Je ne vois pas les 5 étoiles s'allier avec l'extrême droite, mais malheureusement, la politique a plus d'imagination que nous. La dernière hypothèse possible, ce serait effectivement des nouvelles élections s'il n'y a pas de majorité qui sort.
Alors, il faut noter que ces élections ont fait rentrer un sénateur noir. C'est une première dans l'histoire de l'Italie. Un homme d'origine nigériane qui a vécu une grande partie de sa vie en Italie. Il est arrivé en Italie en 76.
Mais ce qui est frappant, c'est pas tellement qu'il soit sénateur et noir, mais qu'il soit sénateur
en plus
de la Ligue, c'est-à-dire le parti d'extrême droite, c'est-à-dire un parti qui est
anti-immigration.
Profondément anti-immigration. Alors, évidemment, la Ligue dirait que non. Moi, je pense que c'est un parti xénophobe. C'est un parti, en tout cas, qui fait tout son discours sur l'anti-immigration et dont le discours originel, en fait, était plutôt un discours nordiste. La Ligue, c'est un parti qui vient du Nord, qui était, en gros, qui disait le Nord riche est obligé de subventionner le Sud de l'Italie, qui sont tous des feignants, etc., etc. Là, maintenant, la Ligue a changé son discours pour avoir un discours plus national, même si son implantation électorale reste largement au Nord, comme on prouve les élections. Son discours, aujourd'hui, est anti-immigration, parce que ça réunit aussi bien bien les Italiens du Nord que les Italiens du Sud, potentiellement, l'anti-immigration. Mais c'est un peu atterrant de voir un immigré lui-même aujourd'hui avoir ce discours-là et dire en gros, après moi, je ferme la porte et tant pis pour les autres.
Sept jours dans le monde.
Yann Mince, partons pour la Corée avec quelques surprises cette semaine, heureuses surprises, du moins on l'espère. D'abord la promesse d'un sommet entre le Nord et le Sud en avril, après une rencontre entre Kim Jong-un et des émissaires du Sud à Pyongyang. À Séoul, Frédéric Ojardias.
Ces déclarations nord-coréennes sont spectaculaires, certaines sont même inédites. Les deux précédents sommets intercoréens avaient eu lieu à Pyongyang et non pas sur la frontière. Ce sera aussi la première rencontre de Kim Jong-un avec un chef d'État étranger. Mais d'autres annonces ne sont en réalité pas si nouvelles. Le régime avait ainsi déjà déclaré dans le passé être prêt à dénucléariser si les États-Unis dénucléarisaient aussi. La Corée du Nord a tellement investi dans son programme nucléaire qu'on l'imagine mal renoncer du jour au lendemain à l'atome sans contrepartie considérable, comme par exemple un départ des troupes américaines de Corée du Sud. Pyongyang et Washington ont aussi déjà signé dans le passé des accords de dénucléarisation, notamment en 1994 et en 2005, des accords qui avaient échoué, chaque camp accusant l'autre de ne pas respecter ses engagements. Il faut donc rester très prudent, mais après des mois de tensions et de menaces de guerre, ces avancées représentent une véritable chance de trouver une solution diplomatique à la crise coréenne.
L'autre surprise, c'est le fait que Kim Jong-un ait proposé une rencontre avec Donald Trump, qui a accepté. On va en parler avec vous, Yann, dans un instant. Mais partons pour la Syrie maintenant. Au moins 1000 personnes, 1000, auraient été tuées à ce jour dans les bombardements sur la partie rebelle de la Ghouta orientale depuis le 18 février dernier. À Beyrouth, Paul Khalife a fait un point jeudi alors que les forces du gouvernement syrien gagnaient du terrain.
En dépit des pressions internationales, l'armée syrienne et ses alliés poursuivent leur offensive terrestre dans la Ghouta, désormais coupée en deux. Les troupes gouvernementales ont entamé jeudi de vastes manœuvres d'encerclement des principales localités. Les opérations se concentrent autour de Misraba, une bourgade du centre de l'enclave qui commande l'accès au bastion de Douma tenu par les salafistes de Jaïch el-Islam. Ces combats interviennent alors que la situation des 400 000 habitants pris au piège frôle le désastre. Le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé le report à une date non précisée d'un nouveau convoi de nourriture et de produits de première nécessité. Des sources proches de Damas et de l'opposition affirment que l'armée syrienne n'est plus qu'à 1 km de Harasta, au nord-est de la capitale. Les avions russes et syriens accompagnent l'avancée des chars et de l'infanterie qui ont fait échec à une contre-offensive rebelle. C'est après l'un de ces raids que l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de cas de suffocation, des informations niées par les autorités syriennes. Au neuvième jour de cette bataille, aucun civil ne s'est présenté au deuxième passage sécurisé ouvert par l'armée près de la localité de Jesrin. Un officier russe a accusé les rebelles d'avoir bombardé un convoi de 300 familles qui projetait d'évacuer la Ghouta.
À suivre bien sûr dans nos journaux et sur le site www.rfi.fr. Et si nous reparlions de la situation des Rohingyas au Bangladesh, fait notable ces derniers jours, les relations se tendent à nouveau entre ce pays et la Birmanie, tandis que les persécutions se poursuivent, selon l'ONU, Christophe Paget, mardi.
Le gouvernement birman ne cesse de dire au monde qu'il est prêt au retour des réfugiés Rohingyas, alors que dans le même temps, ses forces de sécurité continuent de les chasser vers le Bangladesh. Après 4 jours de rencontres avec les réfugiés dans les camps de Cox's Bazar, près de la frontière entre les deux pays, Andrew Gilmour en est convaincu, en Birmanie, le nettoyage ethnique des musulmans Rohingyas continue. De la boucherie sanglante et des viols de masse, on est passé à une campagne de terreur et de famine de moindre intensité, dont l'objectif semble être de chasser de chez eux les Rohingyas restants et de les pousser vers le Bangladesh. Il est donc inconcevable, souligne le haut commissaire aux droits de l'homme, que dans un futur proche, des Rohingyas retournent en Birmanie. L'armée birmane continue de nier toute exaction à l'encontre de la population Rohingya, excepté un incident isolé. L'armée qui, hier encore, a répété que les Rohingyas ne faisaient pas partie des groupes ethniques birmans, une opinion partagée par la majeure partie de la population birmane. Pendant ce temps, au Bangladesh, où la mousson approche, Andrew Gilmour craint que les centaines de milliers de réfugiés entassés dans des camps ne soient maintenant victimes de glissements de terrain et d'inondations.
Alors, Alors, deux grands titres de l'actualité internationale, Yann, cette semaine, la Corée avec cette double surprise, cette rencontre des deux Corées annoncée en avril, et cette rencontre entre le leader nord-coréen et Donald Trump, qui a accepté, là, une date qui n'est pas encore déterminée.
Oui, bien sûr, je pense que personne ne s'attendait à ce que Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un acceptent de se rencontrer, alors qu'il y a quelques mois, ils se menaçaient, chacun avait la main sur la gâchette du missile nucléaire.
Il avait son gros bouton nucléaire. Hein. Et Jonas, qui nous écoute à Lubumbashi en RDC, se demande, j'aimerais comprendre pourquoi les deux Corées se réconcilient maintenant, et sur cette base, n'est-ce pas un camouflet en quelque sorte pour les États-Unis ?
Non, je crois pas. D'abord, la Corée du Sud a bien conscience, et elle est juste à côté de la Corée du Nord, si je puis dire, que toute crise, tout débordement, tout geste mal interprété, par exemple, par la Corée du Nord, geste américain mal interprété, pourrait se traduire par des bombardements sur Séoul. Donc effectivement, le président sud-coréen, qui est plutôt un type de gauche, alors qu'avant c'était un gouvernement de droite, se dit qu'on peut peut-être trouver un arrangement quelconque, au moins pour éviter la catastrophe. Et de ce point de vue-là, c'est parfaitement logique. Maintenant, la question, c'est de savoir plutôt pourquoi est-ce que Kim Jong-un actuellement est prêt à parler avec Donald Trump et pourquoi Donald Trump est prêt à parler avec lui.
Quelles seront les contreparties ?
Oui, à mon sens, Kim Jong-un, il a en partie réussi son affaire. Il estime avoir des missiles interbalistiques qui lui permettraient, je dis très parce qu'on n'est pas sûr de la réalité de l'affaire, mais en tout cas, il affirme qu'il a de quoi bombarder les États-Unis, qu'il a un engin nucléaire, qu'il peut le mettre sur un missile. Tout ça, il le dit, il le prouve pas, mais en tout cas, il le dit. Et donc, il est dans une position de relative tranquillité, parce qu'à mon sens, depuis toujours, ce que veut le président sud-coréen, c'est la bombe à nucléaire comme assurance vie pour son pays, mais surtout pour son régime. Il faut toujours se souvenir que pour Kim Jong-un et pour les dirigeants nord-coréens, la référence Kadhafi. Kadhafi, en 2003, a renoncé à la bombe atomique. Il avait un programme clandestin, il a renoncé. 8 ans après, il était renversé par l'OTAN au cours d'une action militaire. L'obsession des Nord-Coréens, des dirigeants nord-coréens, c'est de dire, si on n'a pas l'arme, on peut être renversé à n'importe quel moment. Le pays peut être attaqué, mais nous, dirigeants, pouvons être renversés. Ayant la bombe, là maintenant, Kim Jong-un sent bien aussi que la pression monte, les sanctions économiques sont de plus en plus fortes, la Chine en a accepté au moins sur le principe de les voter à défaut de les appliquer, donc la pression économique est plus forte, la Corée du Sud fait des gestes, donc Kim Jong-un, à mon sens, est en position de relative tranquillité, de relative sérénité. Ce sera beaucoup plus compliqué, je crois, de négocier pour Donald Trump, parce que Donald Trump a dit, à propos de l'accord entre les États-Unis sous Obama et l'Iran, que c'était le plus mauvais accord que les États-Unis avaient jamais signé. Or là, il va falloir qu'il accepte un deal, comme il dit lui-même, il adore le mot deal, Trump, c'est un négociateur de l'immobilier, donc il sait ce que ça veut dire les deals. Il voudrait un deal, mais un deal, ça veut dire que les États-Unis vont être obligés de renoncer à quoi ? Ils vont être obligés de reconnaître de fait le programme nord-coréen ? On va voir.
Donald Trump qui a annoncé une taxe sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis qui risque de relancer une guerre commerciale.
Avec l'Europe notamment.
On en parlera sans doute dans les semaines et les mois qui viennent. Une dernière chose, Oumar nous écrit et se demande pourquoi Assad accepte que Poutine impose sa folle loi, dit-il, en Syrie.
Je suis en désaccord avec Oumar sur cette question parce que je ne crois pas du tout que Assad accepte quoi que ce soit. En réalité, il y a un jeu théâtral assez bien réglé, je trouve, entre Poutine et Assad. Poutine va voir la communauté internationale au Conseil de sécurité, puisque la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité, en disant, voilà, on va faire un cessez-le-feu humanitaire de quelques heures dans la route orientale. Et en fait, rien du tout. Il n'y a pratiquement pas de cessez-le-feu. Les bombardements syriens... Les convois humanitaires, on l'a dit en reportage, n'arrivent pas à rentrer. Mmh. En fait, c'est une division du travail. Il y en a un qui fait le gentil vers l'extérieur et l'autre qui fait la guerre. L'objectif commun de Assad et de Poutine, c'est que le régime Assad puisse reconquérir le maximum du pays. La route orientale, c'est juste à côté de Damas. C'est vraiment une épée enfoncée dans le coin du régime. Ils ont le sentiment à Damas qu'ils vont pouvoir la réduire et ils sont prêts à tuer le nombre de gens qu'il faudra. C'est une horreur ce que je dis, mais malheureusement, c'est le cas.
Yann Mince, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes pour la suite de notre revue de la semaine. À tout de suite.
Avec plaisir.
Merci pour toutes ces informations. Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction et en compagnie de notre invité, notre confrère et ami Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternative Économique.
Une semaine d'actualité.
Un rendez-vous avec l'Afrique dans un instant, bien sûr, après une escale en France. France, où des projets de loi sont annoncés dans le domaine de la formation professionnelle, notamment de la justice aussi, et où la loi va punir désormais le harcèlement des femmes dans la rue. Dans cette semaine marquée par la Journée internationale des droits de la femme, c'était jeudi, on y revient avec Anthony Latier.
Pouvez-vous nous indiquer quelles orientations vous avez retenues pour mieux protéger celles qui revendiquent la liberté de ne pas se faire importuner ?
Une question de la majorité, une réponse du gouvernement.
Nous retenons les propositions de faire une amende de classe 4. Les forces de l'ordre pourront verbaliser en flagrant délit.
La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, annonce la création d'une amende pour punir les harcèlements de rue. Muriel Pénicaud, elle, veut s'attaquer à nouveau aux disparités de salaire entre les hommes et les femmes.
Cette loi sur travail égal, salaire égal, a 45 ans. On a raté deux générations d'égalité.
Un logiciel sera mis en place pour évaluer dans les entreprises les disparités. Les sanctions tomberont à partir de 2022. Muriel Pénicaud, quelque peu chahutée pendant la séance, ce ping-pong un peu téléguidé entre la majorité et le gouvernement a agacé Alexis Corbière, député de la France Insoumise.
Nous affirmons que sa réforme du Code du Travail a affaibli généralement l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Il n'y a eu aucun acte d'ailleurs qui a été posé par ce gouvernement pour imposer aux entreprises l'égalité hommes-femmes salariale. Et on a par contre eu un bavardage de soi-disant bons sentiments de la part de la ministre qui est assez insupportable au bout d'un moment.
Une cinquantaine de mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes sera présentée ce jeudi lors d'un comité interministériel à Matignon.
À suivre, bien sûr, dans nos journaux. On a fini par l'oublier, mais il existe encore un parti socialiste en France, Yann Mince. Mercredi, les quatre candidats à la tête du PS, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Morel, ont débattu devant les caméras 8 jours avant le premier tour du scrutin réservé, il faut le rappeler, aux militants. Un débat suivi par Marine de la Moissonnière.
Chacun s'est employé à souligner ses différences, mais sans attaquer frontalement les autres. On s'attendait à des passes d'armes entre les deux favoris du scrutin, Stéphane Le Foll et Olivier Faure. Mais en fait, ce sont Luc Carvounas et Emmanuel Morel qui ont été les plus offensifs à leur égard. Ce dernier a notamment sévèrement critiqué le quinquennat de François Hollande.
En 2012, François Hollande n'a pas seulement gagné contre Sarkozy. Il a gagné parce qu'il avait suscité un espoir. Et nous avons déçu cet espoir.
Un retour en arrière qui n'a pas manqué d'agacer Stéphane Le Foll. Quant à Olivier Faure, un peu en retrait, pénalisé par son manque d'aisance en public, il a joué sa partition de grand rassembleur, cherchant parfois à mettre d'accord entre eux ses concurrents, ce qui a énervé Luc Carvounas.
La synthèse molle, on a vu où ça nous a emmené.
Pour le reste, chacun a déroulé son programme. Si les quatre candidats estiment qu'Emmanuel Macron est le président des riches, tous ne sont pas d'accord sur comment s'opposer à lui. Idem sur les alliances qu'il faut nouer à gauche ou bien sur la politique économique. Bref, les divisions du passé sont toujours bien présentes. L'avenir appartient donc aux militants, comme l'ont résumé Stéphane Le Foll et Emmanuel Morel.
Si c'est ça la position que tu portes, ça veut dire que dans ce parti, il faut qu'on ait une position qui soit claire maintenant.
On l'aura, hein ?
Ben oui, on l'aura. Je l'espère, c'est les militants qui trancheront.
Élection en deux tours, il faut le rappeler, les 15 et 29 mars prochains.
Sept jours en France.
Sur quoi cela va-t-il déboucher ? En tout cas, Emmanuel Macron a demandé à une commission d'étudier les modalités de restitution d'œuvres d'art africains qui sont exposées en France. Une annonce faite alors que le président français recevait son homologue béninois, Patrice Talon, Clémentine Pavlotsky.
Au terme de son tête-à-tête avec son homologue béninois, Emmanuel Macron annonce la nomination d'un binôme, Bénédicte Savoie et Félouine Sarr. Leur mission, réfléchir aux modalités de restitution de ces biens culturels aux Africains. Pour l'heure, la loi française interdit la restitution définitive de ces œuvres.
Je me suis engagé afin que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour que des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique soient possibles. Je souhaite aussi que nous puissions travailler dès maintenant avec vous, cher président Talon, sur une plus grande circulation des œuvres entre nos deux pays.
Une promesse du chef de l'État français déjà formulée lors de son discours à l'université de Ouagadougou en novembre dernier. Patrice Talon, le président du Bénin.
Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir présenter notre offre touristique patrimoniale. C'est bien qui matérialise les relations historiques entre les peuples du Dahomey, des royaumes du golfe de Guinée d'entre-temps et la France. Nous mettons dans un sentiment de conflits, de revendications absolues.
Une question qui reste épineuse dans les relations entre les deux pays, tant sur le plan légal que diplomatique. Le Bénin avait déjà réclamé la restitution de ses biens en 2016, une demande alors rejetée par la présidence Hollande.
Dans l'actualité française, il faut aussi signaler que plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Mayotte mercredi, décrété journée île morte dans cet archipel de l'océan Indien, secoué, on le sait, depuis deux semaines par des mouvements de protestation contre l'insécurité. Mayotte subit une forte pression migratoire venue des Comores à seulement 70 km de ses côtes. Il faut là aussi le rappeler. Yann, le Parti Socialiste qui essaie de renaître, ça vous inspire un commentaire ?
Ça m'inspire que probablement il y a une question de timing. Je pense que c'est trop tôt. La popularité d'Emmanuel Macron n'est peut-être pas descendue assez bas pour qu'il y ait une appétence pour quelque chose du côté du centre-gauche, si je puis dire. Je ne dis pas que Emmanuel Macron soit de centre-gauche, mais plutôt le PS qui est de centre-gauche. Donc, pour qu'il y ait une demande de ce côté-là, je pense qu'il va falloir que les gens qui ont voté Emmanuel Macron et qui venaient de la périphérie ou de la famille socialiste élargie, disons, soient convaincus que non, Emmanuel Macron, c'est vraiment pas la bonne solution. Je suis pas sûr qu'on en soit encore là. C'est pour ça que ça me semble un peu tôt. Et puis j'ai pas l'impression que le Parti Socialiste ait élaboré une pensée un peu nouvelle et un peu inédite qui lui donnerait un ancrage. Et la preuve, c'est que visiblement, les quatre candidats avaient des options relativement différentes sur un certain nombre de sujets. Et je crois, par exemple, sur les questions de travail, sur les questions d'entreprise, etc. Il faut que le Parti Socialiste décide un peu plus clairement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.
Oui, vous pensez qu'il y aura beaucoup d'électeurs, que ça intéresse? Il y avait quelques 200 000 téléspectateurs pour ce débat.
200 000 téléspectateurs, c'est pas beaucoup pour un parti qui a été au gouvernement pendant quand même assez longtemps, dont le précédent président était issu. Non, on peut penser qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais en même temps, c'est très compliqué aujourd'hui, je pense, de mobiliser les sympathisants, les encartés plutôt socialistes, alors qu'effectivement, ils ont subi une déroute électorale extrêmement violente.
Alors, l'annonce d'Emmanuel Macron sur cette restitution d'œuvres d'art africains à l'Afrique, vous inspire un commentaire ?
Deux choses, peut-être. Emmanuel Macron a dit restitution provisoire ou définitive. Je pense que tout est dans le « ou », et provisoire est largement aussi important que définitive, puisque semble-t-il la loi interdit les cessions définitives. Accessoirement, je pense que le préalable de toute cette histoire, il est en Afrique. C'est que il faut que les musées africains, il faut que les responsables des ministères de la culture africains prennent les moyens d'avoir les œuvres d'art dans de bonnes conditions. Sinon, il y aura toujours le prétexte de la France de dire si on vous les confie, elles seront pas en bon état de conservation, etc. Or, évidemment, les États africains ont beaucoup d'autres priorités que la conservation de leur patrimoine, aussi attaché soit-il à ce patrimoine. Mais bon, il y a d'autres préoccupations en Afrique. Je pense qu'il faut que les enfants aillent à l'école, il faut que les gens puissent être soignés correctement, etc., etc., etc. Sans compter la lutte antiterroriste pour certains pays. Donc effectivement, je suis pas sûr que la priorité des ministères de la Culture soit dans le fait de pouvoir récupérer et entretenir de bonnes conditions ces œuvres. Or, c'est un préalable. Sinon, toujours la France aura ce prétexte pour ne pas les rendre.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, continuez à nous écrire, y compris sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un salut aujourd'hui à Magloire qui nous écoute au Togo, à Fadel à Port-Gentil, un salut à Fousseni à Conakry. La sécurité du Sahel commence par le démantèlement, la dissolution et l'anéantissement des groupes terroristes établis au nord du Mali, écrit-il. Bonjour à Oumar à Conakry également, il dit salut Une Semaine d'Actualité et bonjour Yann Mince. Bonjour à Kofi à Lomé, à David à Kinshasa. Je salue également Weski Sylvain depuis Ouagadougou. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce samedi. Merci Weski Sylvain. Et enfin, salut à Serge Ibrahim, très critique à l'endroit de Blaise Compaoré, depuis Bobo Dioulasso, à tous nos soldats tombés le 2 mars, écrit-il.
Une semaine d'actualité.
Et partons justement pour le Burkina Faso après l'attentat de Ouagadougou il y a un peu plus d'une semaine. 8 militaires burkinabés ont été tués et 61 autres blessés. Et 24 civils ont été également blessés dans les attaques contre l'ambassade de France et l'état-major des armées. Cette semaine, la procureure Maïsa Sérémé a fait un point sur l'enquête. Frédéric Gara était là.
Concernant l'attaque de l'état-major, la procureure nous a expliqué que ce sont 4 assaillants et non pas 5, comme on l'a cru un moment, qui ont pris d'assaut le QG militaire. 2 sont arrivés en mobylette, 2 autres en voiture Nissan verte.
C'est 8 assaillants et puis 8 de nos forces de défense et de sécurité, malheureusement, qui ont été tués. Peut-être que la confusion est venue par rapport à un corps qui avait été trouvé sur les lieux, qui prêtait peut-être à confusion. L'on se demandait si c'était le corps d'un des assaillants ou d'un de nos forces de défense et de sécurité. Mais après contrôle et examen et tout, il s'est avéré que c'est un de nos militaires. Donc nous maintenons, c'est bien 8 assaillants tués et puis 8 personnes décédées.
Pour le moment, on ne connaît pas la nationalité de ces hommes qui étaient tous en civil, assure la procureure, tout comme les 4 terroristes qui ont attaqué l'ambassade de France. Maïsa Sérémé.
Parmi les assaillants, nous avons dit que l'identification est en cours. Donc pour l'instant, nous ne pouvons vous dire si ce sont des Burkinabés ou pas, si ils faisaient partie de nos forces de défense et de sécurité. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous donner ni leur nom, ni leur nationalité, ni s'ils faisaient partie de tel ou tel groupe militaire, radier, forces de défense et de sécurité ou pas.
Pour accélérer l'enquête, le parquet lance un appel à témoins. Le portrait des 8 terroristes pourrait être diffusé prochainement.
Les obsèques des 8 militaires tués ont eu lieu mercredi. L'enquête sur cet attentat est à suivre évidemment dans nos journaux. Jeudi, plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Sierra Leone, cette fois pour des élections présidentielles, législatives et locales, dont Carole Valane, notre envoyée spéciale, nous a rappelé les enjeux.
Principal défi pour le prochain président de la Sierra Leone, sortir le pays du marasme économique. Fer, diamants, bauxite, le sous-sol regorge de richesses, mises à profit ces 10 dernières années pour renouveler les infrastructures routières et électriques notamment. Freetown est désormais plus surnommé The Dark City, la ville sombre, mais la volatilité des cours ainsi que le choc provoqué par l'épidémie d'Ebola, plus de 4000 morts, ont mis l'économie à terre. Le système de santé reste défaillant, le chômage et la précarité touchent les 2/3 de la population, la corruption est endémique et les Sierra Leonais sont de plus en plus nombreux à réclamer un changement. Changement qui pourrait intervenir par le renouvellement de ses dirigeants, car on assiste à une reconfiguration de l'échiquier politique avec l'émergence de figures dissidentes des partis traditionnels. Ce phénomène pourrait remettre en cause un bipartisme bien installé et très influencé par les facteurs ethniques ou géographiques, voire provoquer la surprise de ce scrutin.
Suite d'une semaine d'actualité, je conseille le livre qui s'intitule « Terre promise » publié chez Gallimard d'un auteur qui s'appelle Thierry Cruvelier qui était notre invité il y a quelques semaines pour parler précisément de la Sierra Leone. Ce qui s'est passé à Ouagadougou ne vous a pas étonné, j'imagine, Yann Mince ?
Bah, étonné, non sur le principe, parce qu'effectivement on sait que des mouvements djihadistes sont actifs dans ce pays et dans toute cette zone. Ce qui m'a surpris en revanche, c'est l'attaque simultanée sur l'ambassade de France. Jusqu'à maintenant, c'était pas tellement des cibles. Les ambassades françaises n'étaient pas tellement des cibles pour ce genre d'attaque, dans mon souvenir en tout cas, pour les plus récentes. Ce que ça veut dire, c'est que des djihadistes sont capables de s'approcher de bâtiments comme ça, qui sont prêts, ça on le savait, mais ça se confirme, à mourir dans ce genre d'action, ouais. Parce que leurs espoirs de rester vivants. Alors je crois que ils ont revendiqué, enfin le mouvement, le principal mouvement djihadiste dans la région a revendiqué ça pour venger la mort d'un de ses responsables principaux qui a été tué récemment. C'est pas surprenant, c'est assez répandu dans les pratiques des groupes djihadistes que de venger leur perte, en tout cas leur perte de haut niveau. Ça veut dire aussi que quel que soit le nombre de militaires qu'on déploie, et on peut penser que dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires déployés, quel que soit le nombre de militaires qu'on déploie, c'est très compliqué de se défendre, on l'a vu ailleurs aussi, contre des gens qui sont prêts à mourir en petit nombre et qui surgissent.
Alors, reparlons de la Libye. Je rappelle que vous revenez de Libye. Vous avez accompagné une équipe de Médecins Sans Frontières pour faire le point sur la situation des migrants. D'abord, quel est le contexte aujourd'hui? Est-ce que cette Libye que vous avez pu apercevoir est sous contrôle d'un État ou est-ce qu'elle est plus que jamais éclatée?
La Libye est éclatée, comment dire, principalement, on va dire, en deux zones. Il y a à l'ouest un gouvernement qui est un gouvernement reconnu par ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est en gros par le Conseil de sécurité.
qui s'impose.
Des Nations Unies, en gros, parce qu'il est le fruit d'un accord entre différentes forces politiques. Et puis, on a à l'Est un gouvernement qui, lui, n'est pas reconnu, mais qui est un gouvernement de fait, qui est dirigé, non pas nominalement, mais de fait, par un général, le général Haftar, qui est un chef militaire. Bon. Mais, en gros, autant à l'Est, je dirais qu'Haftar contrôle une bonne partie de son territoire, autant le gouvernement de l'Ouest, lui, est extrêmement dépendant des milices qui le soutiennent, plus qu'il ne les soutient. Et donc, on a en fait des villes qui ont des personnalités assez fortes. Ouais. Moi, j'étais à Misrata, qui est là où se trouvent les milices les plus importantes de l'Ouest. Et en fait, Misrata est une ville qui soutient nominalement le gouvernement d'Union nationale, là, mais qui, en réalité, est assez autonome. Et on a un peu plus au sud une autre ville où je suis allé, qui s'appelle Beni Walid, qui est la rivale de Misrata, qui, elle, politiquement, est plutôt nostalgique de Kadhafi, pour faire court. Et ces villes sont relativement autonomes, et le gouvernement là-dedans, qui est à Tripoli, ne contrôle que très nominalement la région, parce qu'il n'a pas de force militaire propre. Il n'y a plus d'armée constituée qui serait vraiment sous les ordres du gouvernement.
Alors, les migrants, quelle est la situation aujourd'hui, d'après ce que vous avez vu?
D'après ce que j'ai vu. Donc, moi, j'ai visité un centre de détention, c'est-à-dire ce que je disais en début d'émission, des migrants qui ont essayé de partir vers l'Europe en bateau, qui ont été rattrapés par les gardes-côtes libyens et qui sont ramenés à terre et mis dans ces centres où certains peuvent avoir l'espoir, parce qu'ils viennent de nationalités comme la Somalie, l'Érythrée, etc., peut-être d'accéder au statut de réfugié dans un pays européen, mais ça suppose que le pays européen examine la demande d'asile, et ça ne peut pas se faire. Ça doit se faire en Afrique, en l'occurrence au Niger où il y a un centre de transit. Et puis pour ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile, ça veut dire qu'ils vont être renvoyés vers leur pays d'origine, notamment les pays d'Afrique francophone de l'Ouest ou d'Afrique centrale, par l'Office international pour les migrations qui fait ses rapatriements. Ça veut dire que ces gens sont dans des centres où ils sont sous le contrôle des autorités libyennes qui contrôlent la zone du point de débarquement, je dirais. Donc là, en l'occurrence, c'était à l'Ouest, donc c'était dans la ville de Misrata et dans la ville de Homs, que j'ai visité un centre de détention. Les centres de détention, certains ont des conditions, je dirais, de vie acceptables, d'autres, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et ce que fait Médecins Sans Frontières, c'est d'essayer d'apporter des soins médicaux et de l'assainissement, d'améliorer l'assainissement, des choses aussi triviales, mais aussi importantes que des latrines, y compris pour des raisons sanitaires, dans ces centres de détention, de façon à ce que les gens qui sont enfermés, on l'espère provisoirement, puissent être soignés, parce que souvent ils ont été blessés pendant leur séjour, pendant leur voyage en bateau éventuellement, ils ont aussi pu être blessés. Donc essayer de leur apporter des soins, essayer d'améliorer leurs conditions de vie, extrêmement précaires, mais au moins des améliorer, notamment pour qu'il n'y ait pas, par exemple, de maladies qui se propagent parce que l'eau n'est pas de bonne qualité, parce que les latrines sont pas de bonne qualité. Donc des choses extrêmement basiques, mais extrêmement importantes pour la survie de ces malheureux migrants.
Ouais. Et le Niger, j'ai noté que le Niger est devenu un centre de transit, en fait.
Absolument. Le HCR visite ces centres de détention et essaie d'en sortir, si je puis dire, les migrants qui sont éligibles au droit d'asile en Europe. Certains d'entre eux, 1 000 000, ont été transférés au Niger. Et par exemple, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, qui délivre le statut...
Qui est directement sur place, alors.
Envoie des missions au Niger pour examiner si, effectivement, ces migrants sont éligibles ou pas à l'asile en France. Ils ont été présélectionnés par le HCR, mais c'est chaque État européen qui décide, oui ou non. Et si je ne dis pas de bêtises, il y en a pour l'instant simplement 25 qui ont été acceptés en France et réinstallés, donc après être passés par la Libye, ce qui est quand même pas beaucoup.
Une semaine d'actualité.
Direction le Zimbabwe, Yann, 100 jours après l'arrivée au pouvoir d'Emerson Mnangagwa, qui a chassé Robert Mugabe en novembre, et un bilan en demi-teinte, correspondance d'Alexandra Branjon.
Un bilan mitigé selon les Zimbabwéens, tant les attentes étaient élevées. Le nouveau président a rapidement mis en place des soins médicaux gratuits pour une partie de la population, réduit le prix de l'essence, mis sur pied une commission anticorruption et arrêté d'importantes personnalités accusées de pillage. Il a d'ailleurs décrété une amnistie de 3 mois pour tenter de recouvrer les fonds publics détournés. Plusieurs contrats ont été signés avec la Russie, la Chine, la Biélorussie pour relancer l'économie, mais les infrastructures sont tellement dilapidées qu'il reste encore beaucoup à faire pour attirer les investisseurs. Les pays occidentaux, eux, sont restés frileux. L'Union européenne a assuré qu'elle ne débloquera aucun nouveau financement tant qu'il n'y aura pas d'élections satisfaisantes, et les États-Unis ont récemment renouvelé les sanctions contre certains hauts dirigeants du parti au pouvoir. Tous les regards sont désormais sur les élections prévues dans quelques mois, véritable test d'une ouverture démocratique promise par le chef de l'État. Mnangagwa sait qu'il doit agir vite pour transformer son pays ou risquer la colère de la rue, fatigué d'attendre le changement.
Yann, terminons notre voyage en Guinée. Les femmes de l'opposition étaient en effet dans les rues de Conakry mercredi. Elles étaient des milliers pour exiger justice pour leurs enfants victimes de violences policières, comme nous l'a expliqué jeudi Mouktar Ba.
Et le ton est donné. Toutes de blanc et rouge vêtues, les Amazones, comme elles se font désormais appeler, ont marché sous un soleil de plomb dans une ambiance carnavalesque sur la route Le Prince, épicentre de la contestation contre le régime d'Alpha Condé.
Alpha, nous voulons la justice pour nos enfants. Trop, c'est trop. On est lancé. Si le professeur Alpha refuse de nous montrer ceux qui ont tué nos enfants, nous allons les chasser de ce pouvoir.
Au cours d'un meeting tenu sur un grand axe dans un quartier chaud de Conakry, une porte-parole des manifestantes a déclaré, Nene Oussou du parti groupe.
Je lui demande pardon de grâce. Il n'a qu'à nous montrer qui tue nos enfants. S'il ne le fait pas, on a enterré 90 enfants. 90 personnes. On n'a jamais vu qui a tué qui.
La présidente nationale des femmes de l'UFDG a clos le bal en ces termes.
Premièrement, qu'on arrête ces tueries. Il y a déjà eu un mort de trop. Lundi, on a enterré la 90e victime du régime de M. Alpha Condé. Sans compassion, sans justice et avec la volonté de tuer.
Après ce meeting, la plupart des quartiers de Conakry ont connu la même tension. Jusque dans le centre-ville de Kaloum, le quartier administratif qui abrite le palais présidentiel.
Sept jours en Afrique.
Le Zimbabwe, Yann, 100 jours après le départ de Mugabe, vous inspire là aussi un commentaire?
Je crois que le président Mnangagwa a quelques mois pour convaincre les électeurs, puisqu'il y a des élections présidentielles qui sont prévues. Il est intérimaire, en fait. Il y a des élections présidentielles qui sont prévues en juillet, je crois. Ça lui laisse pas beaucoup de temps, d'autant que je lisais ces jours-ci que Mugabe visiblement fait un retour. En tout cas, il soutient un nouveau parti qui est une scission de son ancien parti, ce qui veut dire que les forces mugabistes, ou anciennes mugabistes, si je puis dire, risquent d'être divisées à l'élection présidentielle. Alors, est-ce que ça peut empêcher le président intérimaire de devenir un président de plein droit réélu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, visiblement, les gouvernements occidentaux et les investisseurs surtout sont extrêmement attentistes. On connaît le degré de corruption et le président Mnangagwa s'en cache pas, le degré de corruption du Zimbabwe. On connaît les difficultés monétaires, financières, etc. Je pense que personne ne se précipitera, je pense, jusqu'à l'élection présidentielle et même après, ça va dépendre de comment ça se passe. C'est compliqué pour le président actuel de faire oublier qu'il a quand même été l'âme damnée, le bras droit et l'un des principaux responsables de la répression du régime Mugabe pendant aussi longtemps, pendant plusieurs décennies. Donc, tout d'un coup, passer comme ça son passé sous silence, c'est difficile de se repeindre aussi rapidement.
Reparlons, Yann, pour conclure, de la situation en Libye, de ce que vous avez vu dans ce pays, qui est encore un pays, qui n'est plus un État, mais en tout cas qui est un pays. Vous disiez que les migrants que vous avez vus étaient originaires de différents pays, la Somalie, l'Érythrée et aussi des pays d'Afrique de l'Ouest.
Oui, alors il y a beaucoup de Somaliens, d'Érythréens, il y a des Soudanais, il y a des Éthiopiens, et une partie de ces gens-là, effectivement, sont probablement, enfin, ont de bonnes chances d'être éligibles à l'asile, au droit d'asile, au statut de réfugié, donc, dans les pays européens. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, pour tous ceux qui sont considérés, à tort ou à raison, comme des migrants purement économiques, par les pays européens. Et je pense, effectivement, aux gens qui viennent du Niger, du Cameroun, du Sénégal, de Côte d'Ivoire. J'en ai vu certains, effectivement, dans le centre de détention. J'en ai vu d'autres dans d'autres endroits, qui sont sur la route avec l'espoir de pouvoir arriver. Mais, effectivement, effectivement, s'ils sont interceptés dans les bateaux et ramenés par les gardes-côtes à corps et enfermés dans les centres de détention, ils ont aucune chance d'être admis, enfin en tout cas pas cette fois-là. Mais en revanche, ils sont probablement rapatriés dans leur pays d'origine. Ouais.
Et en quelques mots, que va faire Médecins Sans Frontières, ou que fait Médecins Sans Frontières France, il faut le préciser, sur place?
Oui, en fait, les différentes sections de Médecins Sans Frontières ont des actions différentes. Médecins Sans Frontières France, disons, pour faire court, s'occupe de donner des soins dans les centres de détention et aussi des soins dans un autre endroit où se trouvent des migrants qui ont été violentés par des trafiquants qui leur ont extorqué de l'argent et qui, pour leur extorquer de l'argent, les ont frappés. On sait qu'ils frappent, par exemple, un migrant en ayant sa famille au téléphone pour que la famille entende des cris de souffrance du migrant et envoie de l'argent. Et j'ai rencontré comme ça un jeune Sénégalais à qui la famille, pour la libération duquel la famille a dû payer 1 500 $, ce qui pour une famille sénégalaise est extrêmement important, voilà, et qui est donc à mi-chemin de son parcours, qui avait été torturé par ces trafiquants. Il n'en est pas mort, heureusement pour lui. Et les trafiquants, parfois, quand ils sont bien disposés, les déposent à l'endroit d'un centre, nuitamment, où ils savent que ces migrants vont être soignés. Et Médecins Sans Frontières essaye effectivement d'apporter des soins à ces gens que j'ai croisés, qui avaient un bras cassé, un pied cassé, et qui avaient connu d'autres choses qui n'étaient pas forcément visibles au premier coup d'œil, mais dont on sait qu'elles sont atroces.
Merci Yann Main, je ne sais pas si je dois vous remercier de ce témoignage, mais ainsi va le monde et l'actualité. Merci en tout cas d'être venu nous voir, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Alternative Économique. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour ID, un numéro spécial d'ID. Nous vous proposerons en effet une visite de l'exposition Peinture des Lointains que le musée du Quai Branly Jacques Chirac propose jusqu'en janvier de l'année prochaine. Nous serons en compagnie de sa commissaire Sarah Ligné, elle sera notre guide. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.